C'est en gros, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que il y a eu une mise en ordre sociale, il y a une mise en ordre sociale et spatiale dans les politiques qui affectent, qui sont mises en place dans les bourgs et les petites villes. Rapidement, je reviens. Donc, j'ai fait une thèse sur le processus de dévitalisation et revitalisation des bourgs et des petites villes en Galice, Normandie et sud-ouest de l'Angleterre. Et pourquoi est-ce que je me suis intéressé donc aux bourgs et aux petites villes? C'est parce que ce sont les plus petits éléments de la hiérarchie urbaine, et pourtant ce sont des maillons de l'organisation de l'espace en termes d'aménagement du territoire et de développement local. Le fait que ce soit les plus petits éléments de la hiérarchie urbaine montre aussi que ce sont des espaces d'interface entre rural et urbain. Et ça m'a beaucoup intéressé. Pourquoi ça m'intéressait aussi? Parce qu'il y avait des politiques publiques de revitalisation des bourgs qui sont mises en place en réponse à des difficultés structurelles. Alors ces difficultés, c'est la périphérisation de la vie avec la mise en place d'un mode de vie qui repose sur les lotissements pavillonnaires, le supermarché et l'avènement du tout voiture. Cette périphérisation de la vie, elle provoque de la vacance du logement et commercial. Il y a dans le même temps des fermetures de services publics, des vieillissements de la population, etc. Et donc c'est pour ça que ces politiques publiques sont mises en place. Aussi, et par rapport à, pour faire le lien avec Anaïs, du coup, en fait, les bourgs ruraux, ce sont les espaces les plus populaires sur l'ensemble du territoire national. Ces petites villes comportent souvent des cités d'habitat collectif, notamment HLM, et une proportion plus importante de locataires que dans les autres communes rurales. En fait, on a une population qui est fortement ouvrière et beaucoup d'employés, dans les bourgs et les petites villes, et notamment de l'espace rural. Alors, dans l'imaginaire collectif, les grands ensembles sont surtout présents autour des grandes villes. Pourtant, et vous le voyez sur ces deux photographies, donc on retrouve autour des bourgs et des petites villes à la fois des logements sociaux en petits collectifs, alors ça qu'on peut facilement imaginer, mais aussi des grandes bars qui accueille entre 50 et 100 ménages. Donc c'est déjà très important. Et souvent, on a un tiers de la ville qui vit dans ces espaces. C'est les éléments que j'ai donnés juste avant de périphérisation de la vie, de vacances du logement, de vacances commerciales, etc. Viennent se surajouter, en tout cas une forte présence des catégories populaires, qui font que ce sont des espaces qui, en fait, véhicule des représentations négatives. On a tous les indicateurs de faiblesse, on va dire, qui font qu'on on a envie de mettre en place des politiques, enfin au niveau national, pas moi, mais il y a des politiques publiques qui sont mises en place. Pourtant, si on regarde au niveau régional, donc en Normandie, cette dévitalisation, on la retrouve au niveau des pertes de population. Donc vous voyez, les bourgs et les petites villes que j'ai étudiées sont surtout dans les zones en bleu, et donc ce sont les zones qui ont perdu des habitants. Si on regarde en contraste à droite, donc c'est la carte à gauche de l'évolution de la population entre 68 et 2013, et à droite c'est la carte de l'évolution de l'emploi au lieu de travail entre 75 et 2013. Pourtant, vous voyez plein de petites taches rouges qui apparaissent dans les mêmes espaces. Donc, hop, ça marche pas sur la souris, c'est pas grave. Donc, en bas à gauche, il y a plein de petites taches rouges, et ça veut dire que l'emploi a augmenté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le modèle de périurbanisation qu'on donne sur les grandes villes, ils apparaissent aussi dans les bourgs et les petites villes. Il y a une augmentation significative de l'emploi. Ça va être surtout des emplois, des employés. Mais les gens viennent résider à côté du bourg, mais pas dans le bourg. C'est pour ça qu'on a cette perte de population. Aussi, on a une différence entre des bourgs qui sont plutôt périurbains, des bourgs qui ont gagné des habitants, des bourgs littoraux, et les bourgs éloignés des espaces ruraux. Ça, c'est ce que j'ai pu étudier dans ma thèse. Donc, en fait, on a trois... J'ai fait une analyse en composantes principales. Alors, c'est une grande analyse statistique où on prend des indicateurs et ça mouline tout seul. Et ça permet de faire ressortir des idéotypes de bourgs. En fait, on a trois grands types de bourgs qui ressortent. C'est les bourgs périurbains, les bourgs avec des indicateurs de faiblesse et les petites villes qui se situent à l'entre-deux. Alors, les bourgs périurbains se situent à gauche. Donc ça, c'est une analyse qui a été faite pour l'ensemble des bourgs et des petites villes de la Normandie. Ces bourgs périurbains, en fait, ils ont plutôt, au niveau des indicateurs, tendance à avoir une augmentation de la population, une surreprésentation des cadres, une surreprésentation des cadres, une surreprésentation des diplômés de l'enseignement supérieur et beaucoup de résidences principales construites après 1990. À l'inverse, en bas à droite, on a les bourgs avec des indicateurs de faiblesse, avec beaucoup de vacances de logements, donc les difficultés structurelles dont je vous parlais, beaucoup d'ouvriers et de diplômés seulement de CAP, BEP. Et aussi, enfin, on a un troisième type, les petites villes, avec plus de population, plus de services, etc., mais qui cumulent à la fois des résidences principales construites avant 1990, beaucoup plus de locataires, et aussi plus de services de locataires, et plus de vacances de logement. Donc les petites villes se situent finalement dans un entre-deux. Alors, cette situation-là, que je viens de vous décrire très rapidement, de quoi elle provient? En fait, elle provient de 20 dernières années de loi, que je vais vous présenter en dernier, pour faire le lien plutôt avec Anaïs. Et aujourd'hui, donc, pour répondre à toutes ces difficultés structurelles que connaissent notamment les bourgs en bas à droite avec de la vacance du logement, etc., je vais vous montrer quelles sont les politiques publiques qui sont mises en place et comment est-ce qu'elles cherchent à contrôler l'appropriation sociale et spatiale de ces bourgs. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? C'est qu'on a eu, en 1977, le passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne, qu'a évoqué Anaïs. Et en fait, ce passage, c'est l'amorce d'un désengagement de l'État. Ce passage, donc l'aide à la pierre, c'était plutôt l'engagement de fonds publics dans l'aide à la construction, et après l'aide à la personne, on va plutôt essayer de solvabiliser les ménages par des aides à la consommation. Ce changement de cap, il a été fait parce qu'il y a eu suffisamment de logements qui ont été produits et parce que l'État préfère soutenir les investissements productifs. C'est également une reconversion de l'État et le logement ne devient plus une priorité. Enfin, on a une accession à la propriété d'une maison individuelle en périphérie de la ville qui est devenue un peu le modèle de réussite résidentielle. Conséquence dans les bourgs et les petites villes, donc c'est la fin de la construction de HLM que je vous montrais tout à l'heure, et aussi donc ce modèle de la maison individuelle qui se développe énormément, donc le début de la périurbanisation que je vous évoquais à l'instant. Donc ensuite on a la réforme Barre, donc où l'État n'intervient plus prioritairement dans la structuration de l'offre immobilière, mais il corrige les effets du marché sur les plus vulnérables. Tout ça, donc, une baisse de production HLM et une disqualification des grands ensembles HLM de l'habitat collectif de masse. Donc, dès les années 80, en fait, dans les bourgs et les petites villes, les constructions HLM que je vous ai montrées sont déjà disqualifiées au moment où elles sont construites. Et donc, tout ça entraîne, encore une fois, les nouvelles formes de croissance urbaine, pavillonnarisation, périurbanisation, dans un jeu de transformation majeure de l'économie capitaliste. Et tous ces processus-là, donc, se passent également dans les bourgs et les petites villes. Ensuite, on a l'émergence d'une politique de renouvellement urbain, donc, où avant, donc, dans les années 80, où avant on était plutôt dans du développement social, de l'insertion et de la participation, et après l'objectif de ces politiques de renouvellement urbain, c'était le désenclavement, l'attractivité, le projet urbain et la mixité. La mixité, elle est entendue en termes d'insertion, de régulation et d'égalité. Ce changement sémantique qui est apparu dans les politiques urbaines, surtout dans les grandes villes, c'est ce changement sémantique que je vais vous montrer dans quelques diapos qui apparaît dans les bourgs et les petites villes. Et ensuite, on a l'arrivée de l'ANRU, où l'objectif, c'est de déghettoiser, c'est-à-dire de modifier le contenu du territoire pour résoudre le problème en modifiant le contenant, avec des crédits à la démolition, à la réhabilitation et à la construction. Cet ensemble de politiques que je viens de vous évoquer, en fait, ils arrivent aujourd'hui dans les bourgs et les petites villes. Donc je vais vous les montrer après. Mais je suis obligé, j'ai décidé de faire une présentation un peu chronologique. Après cette l'ANRU, en fait, dans les années 2000 et 2010, on a la mythologie CAM qui est arrivée au niveau des politiques urbaines. Cette mythologie CAM, qu'est-ce que c'est ? C'est compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Et Bulba Olga et Grossetti se demandent comment s'en désintoxiquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mythologie CAM ? Donc, en fait, c'est l'excellence dans la compétitivité et l'attractivité qui se trouve dans les métropoles. En fait, on va mettre plus de budget pour les métropoles car elles ont plus d'habitants et de richesses et donc seraient plus en capacité d'attirer encore plus de richesses. Et ça, cette politique, elle se fait dans les suites de la néolibéralisation de l'action publique et du tournant spatial de la néolibéralisation. Par rapport à ce qu'évoquait par exemple Anaïs l'idéologie graviériste, donc l'idéologie graviériste, ça serait plutôt le keynésianisme spatial qu'on avait dans les années 60-70 où on essaie de rééquilibrer le territoire. Si on suit cette mythologie CAM par rapport aux bourgs et aux petites villes que je vous ai présentées, en fait, on aurait seulement les bourgs périurbains ou littoraux qui auraient alors de l'avenir. Et seulement par ruissellement. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette mythologie CAM, comment est-ce qu'elle pense ? C'est qu'on va avoir une attractivité de plus en plus forte pour les métropoles, et par ruissellement, on va dire quasiment spatial, ça va arriver aux bourgs périurbains, en premier à la périphérie, puis aux bourgs périurbains plus éloignés. Aussi, pourquoi est-ce que je parle des bourgs littoraux, puisque le littoral aujourd'hui tend à concentrer de plus en plus de richesses. Finalement, ici, je peux vous présenter, si on réfléchit à cette mythologie CAM, je peux vous présenter un schéma de Kerl et Viala, où en fait, mais je vais pas avoir le temps, donc je vais passer très vite, et en fait, cette idéologie, elle a différents effets suivant la situation du bourg et suivant comment est-ce qu'il accepte cette mythologie CAM ou pas. Donc, finalement, toutes ces lois sont défavorables aux bourgs et aux petites villes, en général. Et ça, on est jusqu'au début des années 2010. Et on a un premier tournant avec l'appel des offices HLM en zone détendue. C'est un manifeste pour une autre politique de l'habitat dans les territoires dits détendus. Pourquoi ? Parce que dans ces territoires détendus, du coup, les offices HLM, ils n'arrivent pas à recruter de nouvelles populations, donc ils ont encore plus de vacances du logement. Et donc cette situation, elle est exacerbée dans les bourgs ruraux éloignés des grandes métropoles. Aussi, il faut voir que dans le même temps, il y avait des politiques étatiques qui disaient que, en gros, il fallait faire que des constructions qui étaient économiquement viables, donc pas du tout petit collectif. Alors que c'est ce qui marche dans les bourgs et les petites villes. Ce premier appel, donc qui vise directement des politiques de bourgs et de petites villes, puisque c'est dans ces bourgs et ces petites villes qu'on a les marchés détendus. Donc, sont suivis par un tâtonnement des politiques publiques entre favoritisme pour les grandes villes et redistribution des moyens vers d'autres entités, bourgs, petites villes, villes moyennes, espaces ruraux. Comment est-ce qu'on en a la preuve ? C'est par exemple les trois programmes de revitalisation des bourgs, petites villes et villes moyennes qui ont été mis en place en moins de 10 ans. En 2014, l'appel à manifestation d'intérêt centre-bourg. En 2017, le programme donc qui concernait 54 lauréats. En 2017, le programme Action Cœur de Ville qui concernait 220 lauréats. Et aujourd'hui, Petite Ville de Demain avec plus de 2000 lauréats. Une fois un peu ce retour historique fait, je vais rapidement vous montrer les politiques publiques qui sont mises en place. Alors, en fait, premièrement, donc ces politiques publiques, je vous l'ai dit, elles visent un contrôle de l'appropriation sociale et spatiale des espaces des centres-bourgs. ces espaces de centre-bourg sont en déclin. Et les, donc, ce que Thomas et Paperoni appellent les champêtres ancrés, donc c'est des gens qui apprécient la vie calme, verte, etc., sont satisfaits de leur cadre de vie, mais ressentent une problématique de déclin commercial. Et il y a des profils de citadins aussi qui sont dans ces bourgs et ces petites villes, et eux sont plutôt mécontents de la vie ennuyeuse et morte qu'il y a dans ces bourgs et ces petites villes. En fait, quelles sont les pratiques quotidiennes dans ces espaces ? Donc, c'est un endroit où la voiture est reine, où on trouve des logements et des commerces et des logements vacants, et c'est dans une ambiance urbaine qui est vue comme dégradée. Donc, vous pouvez voir sur à gauche la photo, à ma droite, donc à votre gauche. À votre gauche, une place centrale de bourg, où en fait c'est une place parking. Au centre, c'est une rue d'Isigny-sur-Mer, où la rue principale, où sur 50 mètres, on a 8 commerces qui sont vacants. Et enfin, ici, c'est une dernière photo de la ville de Vire. Et en fait, on voit bien qu'on a un rond-point central qui vient distribuer l'ensemble de la ville ensuite. Alors, qu'est-ce que vont faire les politiques publiques ? Elles vont réaffirmer le local comme échelle des pratiques quotidiennes pour les usagers et les habitants. Ici, sur la photocopie de ce document, on peut voir l'importance du local en regardant les thématiques accessibilité, par exemple, aménagement urbain, recyclage foncier, attractivité, service à la population, commerce de proximité, l'économie. Et en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir une pensée systémique qui vient donner de l'attractivité aux bourgs et aux petites villes. Et donc, c'est exactement les politiques de renouvellement urbain qu'on avait dans les années 80, mais en rajoutant de la mythologie CAM, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ça, et dans l'excellence. Finalement, avant, on avait une politique du ruissellement spatial, maintenant, on a plutôt un ruissellement de la politique, à la fois des grandes villes vers les bourgs et les petites villes. Alors, comment se font ces politiques ? Alors, déjà, il va y avoir une politique de patrimonialisation, en quelque sorte, des pratiques dans le centre du bourg. Ici, je vous ai mis, donc, on va chercher effectivement à faire venir s'installer des commerçants, mais on va contrôler son appropriation dans le centre du bourg. Donc je vous ai mis ici une citation. Donc déjà elle est très haute, son enseigne, elle pourrait être un peu mieux intégrée, et puis il a fait un pastiche de briques qui n'était pas du tout autorisé, il n'avait pas fait de déclaration, donc c'est un peu moche. Donc ça, c'est une chef de service de la ville de Vire qui dit ça. Et en fait, la politique qu'ils vont mettre en place, c'est de vraiment contrôler l'appropriation des commerçants de ce qui se font de l'espace. Cette politique, elle est couplée avec une politique de rénovation, de destruction et de patrimonialisation dans le sens des logements. On va chercher globalement à rénover l'ensemble des logements pour au moins y maintenir ou attirer de nouvelles populations, mais dans le même temps, on va détruire des logements. Ces logements, c'est essentiellement des logements des catégories populaires qui sont vus comme des friches ou en tout cas comme des verrues dans le centre du bourg. Dans le même temps, on va patrimonialiser certains bâtiments, et notamment les bâtiments surtout des catégories supérieures en premier, pour ensuite arriver à une patrimonialisation de l'ensemble du centre-ville. Par rapport à ces politiques de destruction ou de patrimonialisation, je vous ai mis ici un exemple qui s'est passé à Perrier, où le maire a dit dans une réunion: il faut détruire la maison Tolmer pour que le parc Tolmer arrive dans la ville. Réaction d'un élu: non, faut pas y toucher. Vous voyez la bâtisse, c'est la grande bâtisse que vous voyez ici, qui en fait a été fait monument historique, enfin classé au monument, voie de classement au monument historique. Et du coup, pourquoi, donc c'est un bâtiment issu plutôt des forces sociales locales, et donc c'est pour ça qu'il y a des réactions à sa destruction. Mais pourquoi est-ce que le maire veut le détruire ? Parce que juste derrière, il y a un parc qui est très pratiqué par plutôt les catégories supérieures, puisqu'il y a mis des ensembles de sport, etc. Donc le but, c'est que les pratiques des catégories supérieures soient aussi visibles dans le centre du bourg. C'est en ça que en fait, il veut, et on peut dire qu'il y a une volonté de contrôle de l'appropriation sociale et spatiale, et aussi de sa mise en visibilité. Finalement, et pour donc on voit bien comment est-ce que tout ça se pense d'une façon systémique. Et pour conclure, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, on a une évolution des politiques publiques qui va d'une politique du ruissellement au ruissellement de la politique. En fait, on a une politique en faveur de l'aide à la personne qui favorise la pavillonarisation, pardon pour la faute d'orthographe, et des politiques de rénovation urbaine favorisant les grandes villes et une mixité sociale par le bâti. Finalement, on a l'ensemble de ces politiques-là qui sont appliquées en premier dans les grandes villes et qui après vont vers les centres des bourgs et des petites villes. Et ces politiques-là, qu'est-ce qu'elles font ? Donc elles vont gérer les pratiques quotidiennes de l'espace en mettant en place un contrôle spatial de l'ambiance urbaine qui s'apparente plus à un contrôle social de l'expérience des pratiques quotidiennes. Tout ça dans un processus de patrimonialisation qui tente de contrôler cette expérience par une mise en ordre sociale et spatiale des centres des bourgs et des petites villes. Et merci de votre attention.